Les 21h à Gao et à Tombouctou, 22h à Abuja et à Kano. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Au Nigeria, nouvel attentat à Kano, tandis que l'opposition choisit son candidat pour les prochaines présidentielles. Réaction à Gao, au Mali, suite à la libération du dernier otage français.
On a peur, on a nos enfants, on ne nous sent pas en sécurité. On ne peut même pas quitter à 20 km. On a toujours peur, on ne dort pas en paix.
Reportage de Boubacar Touré à suivre. Page culture, le film Tombouctou sort aujourd'hui sur les écrans français. Enfin, bonne nouvelle sur le front du paludisme, le nombre de décès a baissé de moitié depuis l'an 2000. Mais auparavant, voici le bulletin d'information présenté par Jean-Roger Bion. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au Burundi, l'opposition à l'unanimité a demandé hier l'annulation des opérations d'inscription sur les listes électorales. 18 partis d'opposition se sont unis pour la première fois pour réclamer l'annulation pure et simple de ce qu'ils qualifient de pseudo-enrôlement sur les listes électorales. ADC et Kibiri, une alliance qui regroupe une dizaine de partis, avait réclamé auparavant la suspension du processus. Massacre dans l'est de la République démocratique du Congo, le combat contre les auteurs de tueries sera long, tel est l'avertissement de Martin Kobler, le chef de la mission de l'ONU au Congo. On écoute le patron de la MONUSCO.
Je condamne fermement ces terroristes. Nous devons mettre fin à cette terreur. Je comprends votre colère, mais nous devons rester unis. Certaines personnes ont lancé des pierres contre les hélicoptères de la MONUSCO, venus évacuer deux enfants gravement blessés lors des attaques à cause de cet acte insensé et égoïste. Ces enfants ne peuvent pas être soignés convenablement. Je ne saurais comprendre les agressions contre la MONUSCO. L'ennemi, ce n'est pas la MONUSCO, mais ce sont ces personnes qui tuent les jeunes, les enfants, les personnes âgées. Sans votre soutien, il n'y aura pas de paix. Soyons unis contre la terreur.
Martin Kobler, le chef de la mission de l'ONU au Congo. Attentat suicide dans le nord du Nigeria. Deux femmes portant le hijab se sont fait exploser sur un marché de Kano. On compte au moins 4 décès. Selon la police citée par l'AFP, le secrétaire du syndicat des commerçants affirme que les kamikazes étaient âgés de 17 et 18 ans. Et au Bénin, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans la capitale à l'appel de l'opposition pour exiger l'organisation d'élections municipales et cantonales initialement prévues en 2013.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Un ministre palestinien est mort aujourd'hui après des heurts avec les troupes israéliennes lors d'une manifestation en Cisjordanie occupée. Selon des témoins, les troupes israéliennes ont tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants et ont battu certains d'entre eux avec les crosses de carabine. Le ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon, a exprimé ses regrets et annoncé l'ouverture d'une enquête. L'Union européenne a également demandé une enquête immédiate et indépendante sur les circonstances de la mort du ministre Ziad Abu Zein. Malala Yousafzai, la plus jeune lauréate de l'histoire du prix Nobel de la paix, a déclaré aujourd'hui qu'elle s'engageait davantage dans son combat pour l'éducation des enfants. Elle a reçu aujourd'hui le prix conjointement avec l'Indien Kailash Satyarthi, le prix Nobel donc de la paix. L'ancien président polonais Aleksander Kwaniewski a affirmé que la Pologne et la CIA ont opéré une prison secrète sur son territoire, mais les dirigeants polonais n'ont pas autorisé de mauvais traitements ou des tortures contre les présumés terroristes, a-t-il souligné. Aleksander Kwaniewski dit avoir demandé au président George W. Bush de mettre fin aux activités de renseignement à la prison il y a plus de 10 ans. Enfin, les dirigeants de la Chambre des représentants démocrates et républicains se sont mis d'accord sur un projet de budget fédéral de plus de 1 000 milliards de dollars, ce qui va permettre le financement des opérations du gouvernement jusqu'au mois de septembre 2015. La seule exception, le département de la sécurité intérieure, qui n'obtiendra que des fonds que pour environ 2 mois. Les républicains veulent utiliser cette manœuvre pour limiter l'application du décret pris récemment par le président Obama en faveur des immigrés sans papier. Vous écoutez VOA Afrique. La suite de nos programmes, c'est avec Claire Morin-Gibou et c'est Sahel Plus.
Merci beaucoup, Jean-Roger. Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. Nous ouvrons l'émission par le Nigeria où un attentat suicide a eu lieu une nouvelle fois dans le nord du pays. Deux femmes portant le hijab se sont faites exploser sur un marché de Kano. On compte au moins 4 morts selon la police, citée par l'AFP. Dans un autre registre, le principal parti d'opposition, le Congrès progressiste, est réuni à Lagos pour choisir son candidat pour la présidentielle de février 2015. Les explications de Lionel Gaïma.
Le vote de délégués de l'APC se tient dans un stade de Lagos, fief de l'opposition. Il y a les 5 candidats à ces primaires, dont l'ex-dictateur Muhammadu Buhari et l'ancien vice-président Atiku Abubakar. M. Buhari, 71 ans, a été candidat lors des 3 dernières présidentielles. Ce général à la retraite, au pouvoir entre 1983 et 1985, a fait de la corruption et de l'insécurité ses 2 thèmes de campagne. Dans le même temps, le Parti démocratique populaire au pouvoir tient son congrès à Abuja, la capitale, pour ratifier la candidature de Goodluck Jonathan à sa propre succession au scrutin de février 2015. Le président sortant est très critiqué pour sa gestion de l'insurrection des islamistes de Boko Haram qui contrôle des pans entiers dans le nord-est du pays.
Au Mali, les réactions se multiplient depuis la libération de l'otage français Serge Lazarevic. Selon l'AFP, l'otage français a été libéré en échange de plusieurs djihadistes emprisonnés au Mali, y compris l'organisateur présumé de son enlèvement. Au nord, les populations qui ont vécu les événements douloureux de l'occupation djihadiste, avec son corollaire d'amputation et de flagellation, sont partagées entre la peur et la colère. Reportage à Gao de notre correspondant Boubacar Touré.
Le dernier otage français dans le monde aux mains de Al-Qaïda au Maghreb islamique d'une 50aine d'années qui avait été enlevé, on se rappelle, le 24 novembre 2011 à Hombori dans la région de Mopti au Mali, a été libéré aujourd'hui après avoir passé 3 ans aux mains de ses ravisseurs. Il s'agit de Serge Lazarevic qui serait venu au Mali pour exploiter une carrière de ciment. Il était accompagné de Philippe Verdon, assassiné durant sa détention par Al-Qaïda. À Gao, dans le nord du pays, les commentaires vont bon train. Pour les habitants de la ville des Askia, c'est un échange contre 2 grands terroristes qui sont illustrés dans les amputations et l'application de la charia au moment de l'occupation. Il s'agit de Ahmed Agali Agwardosen et Haïba Agasherif, d'où la couleur des uns et des autres.
L'otage français est libéré, mais à quel prix? À quel prix? Dans des situations comme ça, tout le monde comprend que c'est dans la discrétion totale que tout cela est négocié. Mais nous savons quand même que les touristes ne vont jamais négocier la vie d'un otage français, n'est-ce pas? Avec des banalités. On apprend la libération d'autres terroristes, ça ne fait que les renforcer. Et certainement qu'il y a des sous en dessous et qui vont également les renforcer en termes de jugement d'armement, voyez-vous. C'est quand même aberrant d'arriver à des situations comme ça, à des solutions de ce genre, qui à la longue ne peuvent que renforcer la capacité de nuisance de ceux-là même qui nous empêchent de dormir. Donc on a vraiment des inquiétudes encore par rapport à une telle situation. On a des réserves à émettre.
La libération d'un otage français contre 2 islamistes qui ont fait des dégâts au Mali, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut même pas expliquer. Nous savons aujourd'hui c'est la France qui a une main mise sur même les affaires du pays et on est en train de subir.
À mon avis, c'est bien. Le fait de libérer un homme, un chef de famille, vraiment, à mon avis, c'est très bien. Mais le problème en est que, qu'est-ce qu'ils vont en chercher pour l'échange des 2 touristes? Pour qu'ils reviennent encore nous embêter de faire ce qu'ils ont déjà fait. Parce que tout le monde connaît leur travail. Ils ne connaissent que le mal. Ils ne font que le mal. C'est ça qui nous rend peur. On est content. Tous les Maliens sont contents de libérer le Français. Parce qu'à cause du serval, le serval nous a libérés ici. Est-ce que vous avez compris? Vraiment, à cause du serval, on ne peut rien dire. Mais les détruits, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? On a peur. On a peur. On a nos enfants. On ne nous sommes pas en sécurité. Ils nous ont fatigués. Ils sont devenus des loups. On ne peut même pas quitter à 20 km. On a toujours peur. On ne dort pas en paix.
Gao, Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
Gao, où vous nous écoutez sur le 101.7 FM sur la radio Ahadar Koïma. Restons au Mali d'une certaine façon avec le film du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako, Timbuktu. Tombouctou, qui raconte le combat des habitants de la ville aux 333 saints contre l'occupation djihadiste. Le film avait fait sensation au dernier festival de Cannes et il sort demain sur les écrans français. Notre correspondant à Nouakchott, Brahim Dia, avait pu rencontrer le réalisateur Abderrahmane Sissako.
Tombouctou, tourné dans la ville historique de Walata en Mauritanie, a été projeté à Nouakchott. Ce film, au-delà des actes terroristes, des coups d'éclat, raconte la terreur et les humiliations quotidiennes des habitants d'une ville occupée par des djihadistes. Abderrahmane Sissako.
Mon objectif, ce n'était pas de parler du terrorisme, c'est de parler au-delà de. C'est de parler d'une occupation, d'une imposition, d'une vision du monde ou de la religion par des gens dont la plupart, dans le cas de Timbuktu, sont venus d'ailleurs. Et on voit d'ailleurs que la plupart parlent des langues qui sont un peu étrangères, pas totalement étrangères à Timbuktu, mais ils ont besoin d'interprètes pour communiquer avec la population. Donc c'est ça, en fait, qui pour moi a été un traumatisme très profond pour les gens de Timbuktu que j'ai rencontrés en préparant le film. On parle souvent du terrorisme quand des gens sont pris en otage parce qu'ils sont européens ou d'autres nationalités. Et on oublie que les premières victimes, en général, ce sont les populations, dont on parle très très peu. Et pour moi, cet aspect était beaucoup plus important que de parler de l'action terroriste classique dont on nous raconte le plus souvent.
Quand on voit le film, on se dit que les premières victimes de ce qu'on appelle le djihadisme fondamentaliste, c'est les musulmans eux-mêmes.
Absolument. C'est ça que le film raconte aussi. Voilà. Et que s'il y a quelqu'un qui est pris en otage, c'est d'abord l'islam qui est pris en otage depuis un certain temps. Et c'est ça qui est terrible pour moi en tant que musulman. Et donc, en tant qu'artiste, je me positionne parce que je ne veux pas que la vision de cette religion soit celle qui est véhiculée le plus souvent dans les sociétés occidentales.
Pourtant, en Mauritanie, comme dans beaucoup de pays musulmans, il existe des jeunes qui ont de la sympathie pour les djihadistes prétendus défenseurs de l'islam contre l'ennemi occidental. Pour Sissako, il faut aller à la rencontre de ces jeunes pour les délivrer du fanatisme.
Toutes les extrêmes ont leurs sympathisants et qui sont aussi des gens qui sont dans le désespoir, qui tombent facilement de ce côté-là parce qu'ils n'ont pas eu en face d'eux une écoute de quelque chose. Ils ont basculé un moment et je crois que c'est ça aussi qu'il faut regarder un peu en face, que ceux qui partent de ce côté-là, ce sont des gens qui nous ressemblent, ce sont nos frères, ce sont parfois, rarement, mais ce sont nos sœurs aussi, ce sont nos voisins. Et donc il ne faut pas créer ce fossé terrible qui fait du djihadisme le monstre qu'il faut à tout prix couper la tête. L'acte est barbare, les actions sont barbares, inacceptables, inhumaines. Et il y a des jeunes qui ont 20 ans, qui ont 22 ans et qui vont de ce côté-là parce qu'il y a un horizon qui est complètement bouché. Donc il faut aller à la recherche de ces gens-là pour les amener vers quelque chose de plus lumineux pour eux.
À Tombouctou, ville assiégée, fumée, jouer au football, c'est interdit. Et en cas de manquement, les sanctions sont terribles. Sissako dévoile l'absurdité de la situation avec cette scène de match de foot sans ballon d'une femme vendeuse de poissons à laquelle on demande de mettre des gants pour protéger son corps du regard des hommes. À Tombouctou occupé, la musique aussi est interdite. Un jeune garçon joue de la guitare dans une chambre. Sa copine donne de la voix. Les djihadistes font irruption dans la chambre.
Quand vos parents sont là, votre correction sera 40 coups de fouet pour la musique et 40 autres coups de fouet pour vous dans la chambre.
Comme c'est sans appel, l'exécution de la sanction est immédiate. La scène la plus poignante du film, la fille, fouettée pour avoir chanté, mélange sanglots et chansons. Une révolte appréciée par le public mauritanien au moment d'une projection en plein air à Nouakchott. Le réalisateur du film, c'est aussi cette révolte, cette résistance qui a permis de libérer la ville.
C'est une forme de révolte, hein, qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de chanter. Même si tu le fais, il chantera dans sa tête. Voilà, c'est ça pour moi, cette fille qui est frappée et qui continue à chanter, elle se bat, c'est la résistance en quelque sorte. Et ce sont ces résistants, nombreux, dans d'autres aussi, qui finalement ont libéré Timbuktu. C'est pas une question seulement d'armée qui est venue pour libérer la ville.
Brahim Dia, à Nouakchott, pour La Voix de l'Amérique.
Le nombre de personnes décédées du paludisme a baissé de près de la moitié depuis l'an 2000, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'agence onusienne redoute cependant que l'épidémie d'Ebola, 100 fois moins meurtrière, ne freine cette tendance en Afrique de l'Ouest en déstabilisant les systèmes de santé. Jean-Roger Bian.
Entre 2000 et 2013, le taux de mortalité lié au paludisme a diminué de 47% dans le monde et de 54% dans la région Afrique, selon le rapport annuel de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, obtenu par l'AFP. Cela aura permis de sauver près de 4,3 millions de vies. 198 millions de cas de paludisme ont été recensés l'an dernier pour 584 000 décès avec 90% des morts dénombrés en Afrique. Les enfants de moins de 5 ans constituaient 78% de ces victimes. Cette baisse des cas en Afrique s'explique notamment par des mesures de prévention mieux appliquées avec près de la moitié de la population à risque qui avait en 2013 accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticides contre seulement 3% en 2004. S'y ajoute une intensification des tests de diagnostic ayant permis à 62% des patients suspectés de paludisme d'être traités dans un établissement de santé publique. L'organisation sanitaire s'inquiète toutefois de la propagation du virus Ebola qui, en déstabilisant fortement les systèmes de santé des trois pays africains les plus touchés, Sierra Leone, Libéria et Guinée, prive certains malades de traitement contre le paludisme en raison de l'engorgement des services de santé.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Issiaka Ba. À la technique, Keith Holmes. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec la grande chanteuse malienne Aïra Arbi et son Tombouctou. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.